Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, c'est un grand entretien exceptionnel que l'on vous propose avec celui qui a dirigé la deuxième ville de France pendant 25 ans et qui publie aujourd'hui ses mémoires dans lesquelles il raconte 55 ans de vie politique. Bonsoir Jean-Claude Gaudin.
Bonsoir.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce livre absolument passionnant, près de 500 pages, dans lesquelles vous racontez votre histoire évidemment, votre parcours. C'est foisonnant d'anecdotes, on va en parler très longuement ce soir jusqu'à 20h. Vous avez tout connu, hein, 7 présidents de la République, de Charles de Gaulle à Jacques Chirac, dont vous avez été le ministre, à Nicolas Sarkozy. D'abord, j'ai envie de vous demander, comment allez-vous, Jean-Claude Gaudin ?
Moi, je vais plutôt bien. Il y a maintenant à peu près un an que je me suis retiré de la vie politique active et que j'ai pu donc terminer mes mémoires que j'avais déjà entamées quelques années auparavant, mais que je n'arrivais pas à conclure. Alors, cette fois-ci, j'y suis arrivé, bien sûr.
Quand on lit ce livre, et quand on se souvient ou qu'on redécouvre la passion de votre vie politique et cette longévité absolument incroyable, est-ce que vous avez eu un vertige du vide, un coup de blues, pour parler clairement, quand vous avez quitté la mairie de Marseille ?
Oui, évidemment, c'était un moment très important pour moi. Le moment le plus important, c'était d'abord celui où j'étais rentré à la mairie de Marseille. Dans cet ouvrage, si vous voulez, je pense que ça a retenu votre attention. Ce que j'ai voulu démontrer, c'est que pour des jeunes gens, des jeunes filles qui voudraient s'engager dans la vie politique, quel que soit d'ailleurs le bord qu'ils auraient choisi, dès lors qu'ils ne seraient pas riches et qu'ils n'auraient pas eu un père ou une mère déjà parlementaire, qu'ils n'auraient pas fait les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique, Sciences Po, etc. Mais qu'à force de volonté, de travail, de proximité, avec cette volonté d'aider nos compatriotes ou nos concitoyens, on peut arriver jusqu'à des hauteurs un peu importantes dans la vie publique.
Alors vous me devancez, Jean-Claude Gaudin, parce que c'est vrai que vous revenez beaucoup sur votre enfance, sur vos origines. Vous rappelez que vous êtes issu d'une famille modeste, vous êtes né en 1939. Votre père était artisan, votre mère ouvrière, je crois, et vous dites à quel point cela a marqué votre parcours politique. Vous le répétez d'ailleurs plusieurs fois, ce que vous venez de dire. J'ai pas fait Polytechnique, j'ai pas fait l'ENA, je ne suis pas parisien, je ne suis pas un héritier. Pourquoi vous en êtes si fier de ça ?
Bien, parce que tout ce que j'ai pu avoir dans la vie politique, en gravissant les uns après les autres les échelons, c'est-à-dire les différents mandats, j'ai obtenu tout cela en le prenant sur mes adversaires politiques.
Oui.
Rien ne m'a été donné dans la vie politique ensuite, avec les responsabilités que j'ai pu avoir. J'ai vu combien, quelquefois, c'était facile d'hériter de son papa déjà député ou d'avoir une circonscription préparée ou une ville imperdable.
Mais au-delà de
moi,
ce
n'était pas le cas.
Au-delà de ça, Jean-Claude Gaudin, cette revendication de « je suis un fils du peuple et je me suis fait tout seul », c'est un peu ça que vous racontez dans ce livre. On sent une petite pique quand même à ce nouveau monde de la politique, issu de la société civile, à ces ministres qu'on voit aujourd'hui, Jean Castex, Emmanuel Macron. Aucun des deux n'a été parlementaire, dites-vous. Ça n'est pas arrivé depuis Pompidou et De Gaulle. Est-ce que vous le regrettez, ce nouveau monde ?
Alors, ça n'exclut pas leur qualité personnelle, le courage qu'ils manifestent dans l'exercice de leurs responsabilités actuelles, qui sont terribles, bien entendu. Non, c'est pour montrer que quand on est à Paris, quand on a le parcours que j'indiquais tout à l'heure de ceux qui ont les privilèges, on arrive plus vite. Bon, et peut-être parce qu'on arrive plus vite, on est plus éloigné de la proximité et des électrices et des électeurs. Bon, moi, j'ai fait un parcours inverse. J'ai commencé à être simple conseiller municipal et j'ai gravi les échelons. Voilà.
Mais
et rien ne m'a été donné de surcroît.
L'expérience du terrain, elle est impossible, vous pensez, en politique ?
Aujourd'hui, elle est nécessaire.
Elle est nécessaire.
Et d'ailleurs, le président de la République lui-même s'en était bien rendu compte, puisque au moment des Gilets jaunes et ensuite pour éteindre cette insurrection qui s'était produite, il est allé au-devant des électeurs partout pour parler, pour les convaincre, pour expliquer. Donc, voyez-vous, tout ne se décide pas à Paris.
Il paraît d'ailleurs que le président de la République vous a demandé quel est ce secret que vous avez pour durer. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?
Un jour, j'avais invité le président qui était, à l'époque, il était ministre de l'économie. Et nous avions déjeuné ensemble et je lui avais fait une démonstration d'un homme politique de l'ancien monde. C'est-à-dire, il faut gravir les échelons, il faudrait que vous soyez député. Et Emmanuel Macron avait souri Et il m'avait dit, je ne veux pas être député, je veux être président de la République. Bon, et plusieurs mois après qu'il ait été élu président de la République, un jour où il était venu déjeuner à l'invitation du président Larcher au Salon Beaufranc du Sénat, comme j'étais le premier vice-président du Sénat, j'étais là aussi,
oui.
Et il a fait le tour de la table pour serrer les mains des convives, et quand il est arrivé à moi, il m'a dit, vous savez Godin, je vous l'avais dit, je voulais être président de la République, je me suis incliné en lui disant... Félicitations, monsieur le président.
C'est une belle anecdote. On va marquer une première pause dans quelques secondes. D'abord, que pensez-vous de Benoît Payan ?
Benoît Payan est un homme jeune qui aime la politique, qui est déterminé, qui a beaucoup vécu dans la vie politique. Mmh. Il était le président du groupe socialiste. Dans mon dernier mandat au conseil municipal, nous sommes donc affrontés très souvent. Il a un talent oratoire certain. C'est un garçon. Oui. Brillant, et c'est un garçon qui a envie oui. de réussir.
Vous savez ce qu'il dit à propos de vous ? Il dit Jean-Claude Godin, c'est un personnage historique vivant. Il est entré dans l'histoire de son vivant et c'est très rare. Mais il dit aussi, en dehors de sa bonhomie, c'est un adversaire politique féroce, un assassin féroce. Okay. Eh bien, on marque une pause et on va en parler
si
de la conquête de Marseille de 95 à tout
si
de suite.
Si vous voulez, je récuse le terme assassin.
J'imagine. C'est une image. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des Idées, grand entretien exceptionnel qui se poursuit donc avec l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Godin, qui publie ses mémoires. Jean-Claude Godin, maintenant je vais tout vous raconter aux éditions Albin Michel. Alors, Jean-Claude Godin, on va évidemment parler de Marseille, votre ville de cœur.
Bien sûr.
Votre ville pendant laquelle, pendant 25 ans, vous avez été évidemment le maire. On dit souvent, quand on parle de vous, Jean-Claude Godin, il a plein de qualités, mais c'est un roublard.
Non.
Est-ce que c'est vrai ?
Je ne pense pas. Simplement, j'ai quelques principes. Dans la vie politique, et quelquefois vu de Paris ou des observateurs dont vous êtes, on dit, mais quel est l'héritier ? Qui a-t-il choisi ?
Oui.
Y a-t-il un dauphin ? J'ai toujours récusé cette explication. Parce que dans la vie démocratique... sont les électrices et les électeurs qui choisissent le moment venu. Mmh. Et chaque fois qu'on a voulu désigner, ou que certains ont voulu désigner des dauphins, M. Defferre, dans son temps, hésitait entre deux. Et il n'a jamais choisi entre les deux, et total, les deux n'ont pas hérité de M. Defferre. Mmh. Moi, je ne voulais pas attribuer, ou qu'on attribue à ma place le titre de dauphin, ou encore d'héritier ou d'héritière, ce que les journalistes ont essayé de faire récemment avec Mme Martine Vassal lorsqu'elle s'est présentée en disant « c'est l'héritière de Godin ». Elle, ça ne lui convenait pas,
oui.
Et moi non plus.
Alors, Jean-Claude Godin, le jour de cette élection, on est en 95, le 25 juin 1995, vous remportez la mairie de Marseille et vous dites ceci à l'époque.
« Quel honneur pour moi !» de m'inscrire dans la lignée des maires de Marseille. Je suis heureux que ma mère, qui m'a donné l'amour du travail, l'habitude de l'exactitude, elle qui a travaillé pendant 20 ans dans une corderie de notre quartier de Mazargues, je suis heureux qu'à son âge, elle soit là aujourd'hui.
Vous êtes ému en entendant
oui,
ces quelques
bien
mots
entendu. C'était dû au fait aussi d'un rassemblement. À l'époque, vous savez, existait l'UDF, existait le Rassemblement pour la République. Bon, eh bien, nous avions décidé, et j'ai toujours beaucoup insisté, pour qu'il y ait l'unité
oui.
de ces deux familles politiques. Si nous nous étions disputés ou affrontés, on n'aurait vraisemblablement pas gagné. C'est dans l'unité qu'on a gagné. Et j'ai essayé, pendant mes 25 ans, de maintenir toujours une coalition qui nous permettent de diriger cette ville et de la faire prospérer.
À l'époque, en 1995, vous disiez « c'est le plus beau jour de ma vie ». Est-ce que vous le pensez toujours ? Ça a été le plus beau jour de votre vie ?
Non, le plus beau jour de ma vie, peut-être que sous l'effet de l'émotion, j'ai pu tenir ce genre de... Pour le premier jour, le plus important, c'est en 1965. Hein, vous étiez loin d'être né à cette époque-là.
En
1965, où je rentre pour la première fois au conseil municipal de Marseille, où je suis le benjamin du conseil municipal. Alors, je suis assis à côté du doyen avant même que M. Defferre soit élu maire. Et qu'est-ce que je vois devant moi ? les 63 hommes et femmes politiques
oui.
qui font la politique à Marseille et que je suivais avec intérêt parce que j'étais passionné. Et je me dis, je suis au milieu d'eux.
Oui.
Je suis avec eux. C'est ma grande fierté.
Alors, on va revenir, Jean-Claude Gaudin, sur cette ascension de la mairie de Marseille, parce que c'est vrai, quand même, il faut le dire, vous avez changé de camp et d'alliance, parfois au gré des rapports de force. C'est aussi, d'ailleurs, le récit d'une transgression, ce livre de mémoire. Vous avez, par exemple, commencé votre carrière au centre-gauche avec Gaston Defferre, avant de rallier la droite libérale de VGE, Valéry Giscard d'Estaing, avant de vous faire élire, et on va en parler justement, avec les voix du Front National avec qui vous avez dirigé la région PACA en 86. Et à l'époque, en 1986, vous disiez ceci.
Au second tour, le Front National a retiré son candidat et a appelé à voter pour moi. Je suis donc élu avec 72 voix, président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais pourquoi une voix d'un élu du Front National ne vaut-elle pas une voix d'un ami de M. Marché ? Je suis légalement élu.
Bien. Est-ce que vous regrettez
non, je regrette
d'avoir
rien.
Cédé aux sirènes du Front National
à l'époque ? Je ne regrette rien de ma vie politique. J'ai toujours été dans le camp de la droite républicaine et dans l'alliance avec Gaston Defferre, qui était celle qui existait à l'époque. Au moment où il y a l'élection régionale, c'est la première fois qu'on va élire les présidents de région au suffrage universel.
Oui.
Les socialistes me disent « si vous refusez les voix du Front National, nous voterons vos budgets ou nous abstiendrons pour faire repasser vos budgets. » Honnêtement, je n'y croyais pas. Et les hommes et les femmes qui représentaient à cette époque-là le Front National étaient des notables de la région, en particulier des Marseillais,
oui.
Que je connaissais depuis très longtemps. Donc, il n'y avait pas encore l'oukase que les partis politiques ont pu prendre après, sous l'autorité de Chirac et de Juppé.
Oui.
C'est-à-dire, rien avec le Front National. À cette époque-là, c'était possible. Et donc, j'ai accepté les voix du Front National.
Je vous pose la question, Jean-Claude oui. Gaudin, parce qu'on va revenir sur la question du Front Républicain quelques
oui.
instants, et puis on va continuer d'avancer. Mais c'est vrai qu'en 2002, par exemple, vous aviez manifesté à l'époque contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, et on a retrouvé un extrait de votre déclaration à l'époque.
Vous savez que Jean-Marie Le Pen, depuis 15 ans, essaie de prendre Marseille. Mais Dieu merci, il n'y arrive pas. Et je vous rappellerai que, année après année, pendant 6 ans, au Conseil régional, il a fallu lutter pour s'opposer au discours de Jean-Marie Le Pen. Pour ma part, vous savez que depuis longtemps, j'ai toujours été pour Jacques Chirac et que je souhaite que Jacques Chirac, bien entendu, l'emporte. Nous affirmons très clairement ce que nous avons à dire.
Voilà, d'où ma question, Jean-Claude Gaudin,
oui.
on va ramener ça aujourd'hui. Est-ce que, vous savez, il y a cette histoire de Front Républicain qui se fissure aujourd'hui, et qui fait débat, d'ailleurs, dans la classe politique, y compris dans votre famille politique, les Républicains. En cas de duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2022, vous votez pour qui ?
Oui, le Front Républicain, ça dépend des moments, ça dépend du contexte, ça dépend de la situation qui peut se présenter à un moment ou à un autre. Bon, aujourd'hui, les formations politiques de la droite républicaine, LR en particulier, ne veulent pas d'alliance avec le Front National, qui s'appelle Rassemblement National. Maintenant, je me suis toujours tenu à cette position.
Donc plutôt un vote en faveur d'Emmanuel Macron, si l'occasion se présente.
Ben, j'ai déjà voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle. J'ai voté d'abord pour François Fillon, que j'ai largement soutenu et que je connaissais bien. Mais à 8h05, le soir du premier tour, j'ai annoncé tout de suite à la mairie de Marseille, alors que plusieurs de mes amis ne disaient rien et voulaient étudier la situation plus calmement,
oui,
suivant
oui.
leurs intérêts électoraux. Moi, j'ai dit, je voterai bien entendu pour Emmanuel Macron, ce que j'ai fait.
Vous avez connu sept présidents, Jean-Claude Gaudin, là, comme ça, intuitivement, si je vous pose la question, lequel vous préférez ?
Alors, écoutez, je dois beaucoup de choses à Jacques Chirac.
Oui.
Dès 86, quand nous avons, vous rappelez que Mitterrand avait mis la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, et que la majorité de droite et du centre, c'est-à-dire à la fois le Rassemblement pour la République et l'UDF, gagne à 5 sièges près la majorité absolue. Immédiatement, Jacques Chirac m'a proposé d'être ministre des Relations avec le Parlement. Je n'ai pas voulu, parce que j'étais président du groupe UDF et que j'ai préféré le rester 2 ans après, C'est écrit dans mes mémoires. Oui. Jacques Chirac me dira, tu m'as rendu plus de services en présidant le groupe UDF que si tu avais été ministre. Mais il me proposera en 95 à nouveau d'être ministre et là, j'accepterai.
Vous parlez d'ailleurs beaucoup de Jacques Chirac. Vous étiez très lié au couple. Page 124, par exemple, vous dites en 2012, avant la présidentielle, lors d'un déjeuner, il dit à haute voix, on s'en souvient, « De toute façon, je voterai Hollande. » Et Bernadette de rajouter, « Jacques, cessez de dire ça. N'oubliez pas que je suis renouvelable au Conseil général de Corrèze dans quelques semaines. » Ça fait partie des nombreuses anecdotes
que vous racontez. Ça fait partie des anecdotes que je raconte volontiers.
Bien, on reste avec vous, Jean-Claude Gaudin. On marque une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
La suite de notre entretien exceptionnel ce soir jusqu'à 20h avec Jean-Claude Gaudin. Maintenant, je vais tout vous raconter, qui publie donc ses mémoires aux éditions Albin Michel. Jean-Claude Gaudin qui est toujours à mes côtés dans le studio. Alors, il y a un élément qui fait partie de votre personnage, Jean-Claude Gaudin, dont vous êtes également très fier, c'est votre accent. Vous êtes un de ces rares hommes politiques ou femmes politiques avec le parcours que vous avez eu qui a cet accent. D'ailleurs, vous savez que, je ne sais pas si vous écoutez la matinale d'Europe 1, mais Nicolas Canteloup continue aujourd'hui encore à se servir de votre imitation.
Absolument.
Pour parler de Marseille. Écoutez ce court extrait.
Dites-nous ce que vous pensez de cette fermeture des bars et des restaurants.
Oh, là, je vais être trivial. J'ai envie de dire, je tiens de vie. Hein.
Oula.
Mais, non, mais comment on va en faire? Je vous le dis tout de go. Tous ces restaurants du Vieux-Port qui vous font d'habitude amoureusement réchauffer une boîte de bouillabaisse Leader Price pour 43,50 €. Non, je le dis franchement, on veut assassiner notre gastronomie locale.
Voilà, ça marche plutôt bien. Vous en avez joué de cette image de méridionale.
Oui, mais Canteloup, c'est très excessif, mais c'est très amical et c'est très correct aussi. Non, je n'ai pas voulu changer. Je n'ai pas voulu adopter un langage plus policé. J'ai l'accent qu'en naissant, mon père m'a donné et je l'ai conservé. Mais entre nous, lorsque on parle à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat, si vous croyez que les élus alsaciens ils n'ont pas d'accent non plus, ou ceux du Sud-Ouest, bon, par conséquent, je ne crois pas qu'il faille tout. D'ailleurs, Canteloup se régale, me semble-t-il, avec le Premier ministre tous les soirs.
C'est vrai. D'ailleurs, parfois ça vous agace, cette image d'Épinal. Vous dites de faire passer les Marseillais pour des paresseux, au même titre que l'accent, le pastis, la sieste, la voyoucratie, les cagole, la pétanque. D'ailleurs, je crois que vous ne buvez pas de pastis et vous ne jouez pas à la belote ni à la pétanque. Est-ce que c'est vrai ?
Effectivement. Simplement, j'aimerais de temps à autre que les observateurs ou les journalistes qui se déplacent au moment des périodes électorales constatent tout ce qui se passe à Marseille de mieux que les clichés.
Oui.
Car nous avons une assistance publique de grande qualité. Nous avons les meilleurs médecins qui sont là. Nous sommes très haut placés dans la recherche médicale, dans la technologie, dans mille et une de choses. J'aimerais de temps à autre que l'on parle de ces aspects
On en a parlé avec le
positifs.
Professeur Raoult,
voilà. Avec Raoult, évidemment. Mais je vous dirais que grâce à lui, dès le premier épisode du Covid, nous avons pu faire au moins 117 000 tests grâce à lui. Dans la deuxième ville de France.
Il y a un cliché quand même qu'a la vie dure autour de Marseille, c'est son milieu, ces bandits. Est-ce que pour diriger la ville, pour être élu dans cette ville, il faut avoir le soutien du milieu ou il faut...
Ça a sans doute existé du temps de Carbone et Spirito, symbolisé bien entendu dans les films avec Alain Delon et Borsalino. C'est une époque totalement résolue. Ça n'existe plus. Les réseaux de prostitution ont disparu. Avec l'évolution des choses, les voyous se sont sans doute eux-mêmes modifiés. Le drame, c'est que dans une ville de l'importance de Marseille, 870 000 habitants, vous avez le trafic de drogue.
Oui.
Peut-être orienté par des voyous, mais surtout accompli par des jeunes qui vont se faire tuer à 20 ans pour avoir pratiqué ça.
Vous récusez, Jean-Claude Gaudin, évidemment, les accusations de clientélisme, parce que beaucoup ont dit... Certains de vos successeurs, d'ailleurs, ont dit « c'en est fini avec le système Gaudin ».
Oui, ce sont des expressions. D'abord, il n'y a pas eu de système Gaudin, il y a eu une équipe d'hommes et de femmes qui se sont engagés, qui avaient généralement une profession et qui consacraient leur temps à développer cette ville, à faire reculer le chômage et à faire en sorte que cette ville rayonne sur le plan international. Par conséquent, Oui, le clientélisme a toujours existé dans la vie politique. Vous rappelez la phrase même de « je préfère mes enfants à mes cousines enfin, », oui. etc. Bon, évidemment qu'il y a des gens qu'on a aidés, mais moi, je m'honore d'avoir aidé tout le monde, tous ceux qui me l'ont demandé. Tantôt j'ai réussi, tantôt je n'ai pas réussi, mais je l'ai fait sans volonté de clientélisme, ni de préférence de formation politique.
Quand vous dites des gens qu'on a aidés, de quelle manière ?
Bon, ben écoutez, je suis heureux quelquefois dans mon quartier de Mazargues d'avoir aidé les fils de mes amis de jeunesse qui avaient fait des études brillantes et que j'ai pu aider à les faire entrer dans des grandes entreprises ou dans l'administration et où ils progressent d'ailleurs fortement. Voilà, si vous voulez. Alors évidemment, on peut toujours donner ici ou là un HLM oui. ou même une concession funéraire, oui. Mais ça se compte très peu, ça. C'est pas ça qui vous fait élire oui. ou battre. Voilà, c'est le développement général de la ville.
Il y a un homme politique en ce moment qui a aussi un accent, revendiqué d'ailleurs, c'est le Premier ministre Jean Castex. Oui. En quelques mots, est-ce que c'est un bon Premier ministre ?
Ah, écoutez, en tout cas, lui, comme le président de la République, d'abord le président de la République, rien ne leur aura été épargné.
Oui.
Hein, voilà un quinquennat où tout s'est abattu sur le président de la République.
Nicolas Sarkozy n'aurait pas fait mieux.
Quand j'avais 25 ans, j'aurais été peut-être abrupt dans mes analyses politiques. L'ancienneté, l'âge venant, la durée des mandats m'a appris à être beaucoup plus modéré. Bon, effectivement, le président de la République, il a des difficultés, mais il essaie d'y répondre, me semble-t-il. Et le Premier ministre l'aide comme il peut. Alors évidemment, si on est au Parlement, oui. si on demande une commission d'enquête, oui. où on en est de la vaccination, ceci et cela, c'est le rôle des députés.
C'est du cinéma, ça ou...
Non, c'est le rôle du député. Le Parlement est là pour contrôler l'action du gouvernement. Je ne pense pas que le gouvernement s'y oppose.
Il y a un drame qui est arrivé dans votre vie le 5 novembre 2018, qui vous a profondément marqué, Jean-Claude Godin.
Oui.
C'est le drame de la rue d'Aubagne.
Oui.
Deux bâtiments qui s'effondrent, 8 morts, un des bâtiments appartenait à la ville. Même s'il était muré et non habité, cela vous a profondément marqué.
Alors, je rectifie un peu.
Y compris ce qui s'en est suivi.
Oui. Le bâtiment qui s'effondre est une copropriété privée. Il entraîne l'effondrement d'un autre bâtiment qui appartenait à une société sous l'autorité de la ville, où nous avions mis 10 ans pour faire partir les locataires qui étaient là, et le bâtiment était muré, donc il n'était pas occupé. Par conséquent, c'est un drame terrible parce qu'il y a 8 morts, que cela me hante considérablement. Et d'un commun accord avec le préfet, nous décidons
quand
ce jour-là...
Quand vous dites ça me hante, c'est-à-dire
oui,
que vous y pensez
c'est-à-dire
constamment
c'est-à-dire que j'y pense régulièrement, bien entendu. Avec le préfet, nous décidons à ce moment-là qu'on va faire un périmètre où on va évacuer des logements qui pourraient être insalubres ou s'effondrer, 2000 personnes. Et il a fallu que je m'occupe, effectivement, d'abord de reloger dans les hôtels ces 2000 personnes, de les nourrir le matin, à midi, le soir, et ensuite de leur offrir des logements. Et ensuite, puisque ces bâtiments avaient été vidés, qu'ils étaient ouverts aux 80, de tout nettoyer avant de permettre la réintégration. Donc, pendant que je me suis occupé de ça, je n'ai pas tellement voulu parler aux journalistes.
Oui.
Sans doute ai-je eu tort.
Oui.
Mais pour autant, la compassion pour moi a été terrible aussi, parce que 8 morts...
Ça vous a touché, ça,
mais bien sûr.
Qu'on dise, tiens, Jean-Claude Godin, il manque d'empathie, il manque de compassion.
Oui, dans une ville comme Marseille ou même ailleurs, s'il y a un drame, généralement, on se tourne et on rend le maire responsable.
Oui.
Pour autant, quant à la rue de Trévise, à Paris, il y a 4 morts, on n'a pas dit c'est la faute de Mme Hidalgo. Là, on approchait des élections, les fameux collectifs qui se sont créés, bien entendu, ont été très actifs contre moi et en disant que tout était de ma responsabilité. Alors, c'était un peu injuste parce que dans le passé, j'avais fait 3 accords avec les gouvernements successifs pour justement limiter les appartements, les logements insalubres. Une fois avec Mme Marie-Noëlle Liedman, une fois avec M. Borloo et même une fois avec M. Julien de Normandie.
Oui.
Bon, voilà, bon, mais j'ai dû supporter tout ça.
C'est votre plus grand regret, la rue
d'Aubagne ? Ça fait partie, évidemment, de ce qui m'a le plus atteint. Mais vous savez, dans l'histoire de cette ville, en 1938, il y a un immense incendie sur la Canebière dans un magasin qui s'appelait Les Nouvelles Galeries.
Oui.
Et là, il y a eu 73 morts. Et je pense tout le temps aussi au maire de Marseille de cette époque, ce qu'il a dû lui aussi supporter sur 73 personnes qui étaient mortes dans cet incendie. Ça peut arriver dans les villes, ça peut arriver ailleurs, d'ailleurs c'est arrivé aussi. Mais bien entendu que j'ai effectivement sans arrêt une pensée pour ces personnes qui sont mortes là, alors que j'étais en fin de mandat.
Jean-Claude Gaudin, l'entretien touche à sa fin. On pourrait parler des heures avec vous, tellement ce livre est passionnant, rempli d'anecdotes. 50-50 vie politique. Jean-Claude Gaudin, maintenant je vais tout vous raconter aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite,
Jean-Claude Gaudin ? D'abord, ces mémoires, je les ai écrites dans l'esprit pour solde de tout compte.
Oui.
Je n'ai pas de compte à régler dans la vie politique. Même dans ma famille politique, où quelquefois j'ai été largement épinglé, ça fait partie du jeu. Dans une formation politique, comme dans une famille, il arrive qu'il y ait des hostilités. Bon, mais moi, j'ai fait ça pour solde de tout compte.
Solde de tout compte.
Que je n'ai pas d'animosité ni rien, d'ailleurs même, les personnalités qui m'ont critiqué, je suis disposé de les aider dans les futures élections.
Oui, peut-être que vous allez vous mettre au pastis et à la pétanque.
Non, je ne me mettrai pas au pastis et à la pétanque, mais je dois vous dire quand même qu'il m'arrive aussi, comme tout le monde, de manger l'aioli ou la bouillabaisse.
Ah, très bien. Merci Jean-Claude Gaudin pour ce grand entretien. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
Vous restez avec nous dans quelques secondes. Les archives d'Europe Soir, comme tous les jours à cette heure-ci. Le jour où, ce soir, on remonte en 1981. Le jour où il y a eu cet attentat contre le président Ronald Reagan. À tout de suite.